Orinoco. Billets d'humeur ou chroniques, anecdotes ou histoires, culturelles et musicales. Inclassables. Aux manettes et au micro, Gilles Bègue. Salut à toutes les auditrices et auditeurs qui me retrouvent pour ce dernier épisode d'Orinoco de la saison. Saison qui nous balada des médias aux abeilles, puis tenta d'expliquer les dangers du conformisme, ainsi que les raisons qui font que les hommes préfèrent se cacher pour aller pleurer. Puis en janvier, un programme plus personnel et plein d'espoir à la fois pour tous ceux qui n'ont jamais lu et ne liront peut-être jamais, suivi d'un voyage à Cuba. Puis la pop et la pub s'invitèrent aussi au programme. Et pour ce dernier numéro de la saison, j'avais envie de partager avec vous quelques récits incroyables de la vie de quelques femmes au destin hors du commun. Vous me direz que cette émission aurait pu être diffusée en mars, dont le 8 est la journée internationale des femmes. Mais n'étant pas très conformiste, comme le programme de novembre dernier vous le rappelait, ni attaché, ça marche de pair, aux fêtes et aux célébrations imposées, c'est en juin que j'ai décidé de vous proposer ce condensé pittoresque, romanesque, cocasse et insolite de la vie de quelques femmes, plus ou moins célèbres d'ailleurs. Vous pouvez aisément imaginer que le choix qui m'était offert était si important qu'il me fallut décider arbitrairement pour n'en sélectionner que quelques-unes. Les femmes de caractère au destin hors du commun furent si nombreuses au fil des siècles qu'il ne sera pas nécessaire de m'écrire en fin de programme pour me dire que j'aurais pu parler d'une telle ou d'une telle. Ce ne sont pas des oublis, mais tout simplement une question de timing qui, vous le comprenez, ne me permettait pas de toutes vous les présenter. Et la première femme sur qui je porterai mon attention sera Mel Bonis. Non pas pour le caractère hors du commun de cette femme, bien que, mais tout simplement parce que ce sont les thèmes musicaux de cette grande compositrice qui me serviront à illustrer ce programme. En avril 2020, j'avais consacré un numéro d'Orinoco aux compositrices oubliées sous le titre « Compositrice, la musique, un art machiste ». Fausse note, y a-t-il des femmes compositrices ? Et de façon chronologique, je vous avais présenté Hildegard von Bingen, Béatrice Dedi, Louise Farinck, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Marie Jaël, Annie Beach, Alma Mahler, Germaine Taillefer, Lily Boulanger et Camille Pépin. Programme que vous pouvez d'ailleurs toujours réécouter en podcast sur le site orinoco-podcast.com. Là encore, ce fut le temps qui me contraignit à limiter mes choix à ces quelques compositrices. Par bonheur, ce soir, je vais pouvoir vous en présenter une toute dernière, Mel Bonis, ou parfois Mélanie Bonis, de son vrai nom, Mélanie Hélène Bonis. Mel Bonis, compositrice post-romantique française, est née le 21 janvier 1858 à Paris. Son père était tisserand tandis que sa mère était blanchisseuse. Pour la petite histoire, son grand-père maternel, Pierre Mangin, fut une des figures de la Révolution de 1848. Mel Bonis commença à étudier en autodidacte et reçut des leçons de piano et de solfège qu'à partir de ses 12 ans. Et c'est Franck César qui lui enseigna alors le piano en cours particulier, puis l'encouragea à se présenter aux examens d'entrée au conservatoire. Et c'est à 18 ans, en 1876, qu'elle entra au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où elle rencontra 3 ans plus tard Amédée Louis Hettich, qui voulut l'épouser. Mais la famille de la compositrice désapprouva cette union. En novembre 1881, elle envisagea de se présenter au concours du prix de Rome, malgré la controverse que provoquait son projet. Cependant, elle ne participera pas au concours et arrêta soudainement ses études pour des raisons familiales. Car si la compositrice est amoureuse d'Amédée, sa famille ne voit pas cette relation d'un bon œil et décide donc de préparer un mariage de convenance avec un autre homme, Albert d'Aumange, qu'elle épousera. Elle a 25 ans, lui 47 ans, et bien que deux fois veuf et père de 5 enfants, ils auront ensemble 3 enfants. Pour autant, Mel continuera à voir Amédée, avec qui elle aura une fille, qu'Amédée reconnaîtra. Néanmoins, Mel Bonis n'abandonne pas sa fille et se fait passer pour sa marraine pour la protéger et garder un lien avec elle. Elle l'introduit même dans la famille qu'elle a construite avec Albert d'Aumange. Le fils d'Albert d'Aumange et de Mel Bonis, Édouard, tombe par hasard amoureux de cette misseur secrète au retour de la Première Guerre mondiale. Ne pouvant laisser une relation incestueuse s'établir, Mel Bonis leur révèle alors leur lien de parenté. Ils sont frères et sœurs. Cette révélation resta cependant secrète et personne d'autre que trois ne fut au courant. Cette compositrice prolifique composa environ 200 œuvres tout au long de sa vie, favorisant le piano, mais composant aussi pour de petits ensembles instrumentaux et quelques œuvres pour orchestre. Longtemps oubliée, la découverte de la compositrice a débuté avec Eberhard Mayer et sa compagne Ingrid Mayer, cherchant des partitions dans les grandes bibliothèques européennes à Berlin, Munich, Vienne et Londres, avant de poursuivre à la Bibliothèque nationale de France en 1986. Ils découvrirent les partitions du quatuor avec piano numéro 1, de la sonate pour flûte et de la sonate pour violoncelle. À partir de 1994, Eberhard Mayer intégra les deux sonates dans des programmes de concert. Et c'est en compagnie de cette compositrice que nous continuerons ce programme consacré aux femmes de caractère dont le destin est souvent hors du commun. La seconde femme dont j'aimerais vous parler, c'est Mademoiselle de Maupin, cantatrice et épéiste française de la fin du XVIIe siècle et dont la vie si trépidante fut reprise en roman par Théophile Gautier en 1835, au cinéma dans un film de Mauro Bolognini en 1966, puis dans une série télévisée de Charlotte Branston en 2004 avec Sarah Biasini, la fille de Romy Schneider, et Pierre Arditi. Mais à chaque fois, les scénaristes, Théophile Gautier en tête, ont cru bon transformer l'histoire, imaginer des vengeances, alors que sa biographie n'a absolument pas besoin d'être améliorée, tant elle est déjà si extraordinaire. Bien que relatée à de nombreuses reprises, sur de nombreuses radios, elle le sera une fois de plus dans ce programme. Voici donc l'histoire rocambolesque, improbable et scandaleuse de la Maupin, chanteuse talentueuse de l'Opéra de Paris, une des plus fines et turbulentes lames de son époque, et amoureuse en série, qui a eu le temps, avant sa mort à 33 ans, d'être acclamée sur la scène, tuer des adversaires en duel et d'enlever sa bien-aimée d'un couvent avant d'y mettre le feu. Mademoiselle de Maupin, de son vrai nom Julie d'Aubigny, est la fille unique de Gaston d'Aubigny, occupant l'insigne fonction de secrétaire de Louis de Lorraine, comte d'Armagnac, grand écuyer de France et membre de la maison du roi. Elle naît tout près de Paris, probablement en 1670 ou 1673. Son père, ne négligeant pas son éducation masculine et féminine, lui permit d'étudier les lettres, la grammaire, la danse, le dessin, l'équitation et surtout l'escrime auprès de maîtres d'armes renommés. En escrime, c'est l'épée, plus précisément la rapière et le fleuret. Son père entend lui donner les moyens de se défendre et dès son adolescence, en traînant dans les manèges parisiens et les salles d'armes, Julie se forge un sacré caractère. D'un tempérament difficile, irritable et batailleur, mieux, il est préférable de ne pas lui chercher querelle, car elle manie l'épée avec la plus grande habileté et bataille déjà comme un mousquetaire. Malgré ce caractère trempé, elle est d'apparence féminine, de petite taille, le visage mignon, presque enfantin, de beaux cheveux, châtains, soyeux, de grands yeux bleus, le nez aquilin, une belle bouche, la peau très blanche et la gorge parfaite. Ce qui explique en partie, mais ne justifie rien, que le patron de son papa, le comte d'Armagnac, celui que tous surnomment Monsieur le Grand, au sein de la grande écurie, ait été son premier amant alors qu'elle était encore très jeune étant un euphémisme car elle n'avait pas 15 ans. Ne pouvant empêcher la liaison entre sa fille et son employeur, le comte d'Armagnac, son père décide de la marier, non sans résignation, au sieur de Maupin, à Saint-Germain-en-Laye, pour conserver les apparences. Ce sieur Maupin est un bonhomme doux et affable dont Julie se moque. Ne souhaitant pas souffrir de la présence d'un mari dont elle n'est pas amoureuse, elle s'arrange avec le comte dès le lendemain des noces pour le faire nommer en province et arrive à le convaincre de partir sans elle. Le pauvre mougre s'exécute et Julie, débarrassée de ses devoirs conjugaux, est libre de rêver à la vie d'aventure à laquelle elle aspire. Elle reste donc à Paris, continue à fréquenter les salles d'armes et, un jour, lors d'un entraînement d'épée, tombe amoureuse de Serran, un escrimeur venu du Languedoc et prévôt de salles d'armes. C'est le coup de foudre, le premier. Mais le jeune homme ne tarde pas à être traqué par la police de Louis XIV pour une histoire de duel qui a mal tourné. C'est le début de la cavale. Peu importe, Julie abandonne tout. Ils s'enfuient tous les deux vers Marseille. En chemin, pour plus d'aisance et de discrétion, elle enfile un costume masculin de cavalier, un équipement plus léger et moins entravant que la tenue féminine de l'époque. La voilà donc libre, comme l'air, délivrée des embarrassantes et multiples couches d'étoffe, galopant à califourchon comme un homme, en route pour l'aventure. Quelle fière allure! Cette vie de vagabondage finit par les faire tomber dans le besoin et la pauvreté, les poussant à donner des petits spectacles d'escrime dans les rues et sur les places publiques. Entre deux duels, il leur arrive aussi de chanter afin de récolter 3 sous. Et c'est comme ça qu'elle devient artiste, en montant à l'auberge des spectacles de duels et de chants. C'est ainsi, à cette période, qu'elle commence vraiment à s'habiller régulièrement comme un homme. Puis lors de cette escapade dans le Midi, elle finit par se lasser de Serran. Et lui arrive alors sa première aventure. Elle reçoit les faveurs d'une jeune femme de bonne famille et démarre une relation, ce qui est désapprouvé par les parents de cette jeune fille. Scandalisés par cette fréquentation éhontée, les parents décident de cloîtrer leur fille dans un couvent d'Avignon, afin de refroidir ses ardeurs et de la préserver de cette drôle de femme déguisée en homme. Et là, une fois de plus, l'histoire devient incroyable. Écoutez bien. Julie d'Aubigny suit discrètement son amoureuse, s'introduit dans le couvent en tant que novice pour que leur amour puisse se poursuivre dans le secret, derrière les murs épais du monastère, et profiter secrètement de leur relation. Mais cet épisode rocambolesque étant pour le moins cloîtrant, Julie songeait sérieusement à un plan d'évasion. Un soir, ne supportant plus cette vie de réclusion, elle profita de la mort récente d'une moniale pour aller déterrer son cadavre, le placer dans le lit de sa jeune amie avant d'y mettre le feu. L'incendie de sa cellule s'étendant à d'autres parties du couvent, elle profita de la pagaille générale pour s'enfuir en emportant dans ses bras sa bien-aimée apeurée. Julie d'Aubigny disparaîtra avec elle durant 3 mois, mais finira par l'abandonner car la jeunette n'avait pas la témérité de Julie. La jeune fille finira par retrouver ses parents complètement penauds. Quant au magistrat du Parlement d'Aix, pensant avoir affaire à un rapt organisé par un homme déguisé en religieuse, ils auraient condamné par contumace cet odieux kidnappeur à être brûlé vif. Toujours est-il qu'après ces quelques péripéties méridionales, Julie sentit qu'elle avait tout intérêt à décamper, et promptement. C'est le moment qu'elle choisit pour remonter, seule, sur Paris, sachant qu'elle pourra toujours compter sur la protection de son premier amant, le comte d'Armagnac. Comme on commence à pouvoir l'imaginer, ce retour vers la capitale ne fut pas sans embûches. Faisant route d'auberge en auberge, de taverne en taverne, toujours fièrement, sapée comme un mec, elle croise, au sortir d'une taverne, le jeune et noble chevalier Louis-Joseph d'Albert de Luynes, qui lui aurait, semble-t-il, dit un mot de travers. Julie ne fit pas attendre sa réponse, une torgnole, une claque si vous préférez. Quel affront pour ce chevalier qui, bouillant de rage, défie ce jeune impertinent de son épée. « À votre guise, lui dit Julie en haussant les épaules. » Et en un tour de main, Louis-Joseph se retrouve le cul par terre, une lame pointée sur la gorge. Vous pouvez imaginer sa surprise et son désappointement. Le lendemain, toujours sous le choc de cette histoire, et tandis qu'il se fait soigner, le chevalier apprend que celui qui lui a infligé de multiples blessures est en réalité une femme, et il en tombe follement amoureux. Pour faire court, il la revoit, c'est un coup de foudre partagé, et les voilà amants. Mais, ne pouvant tenir en place, Julie met fin à cette aventure amoureuse qui venait de commencer et reprend la route. Ils demeureront toutefois amis jusqu'à la mort de Julie, comme en atteste la trace de certaines correspondances émanant du chevalier Louis-Joseph d'Albert de Luynes. Quelques jours plus tard, Julie croise la route de Gabriel Vincent Thévenard, un baryton d'opéra dont elle devient aussitôt la maîtresse. Gabriel Vincent Thévenard lui promet alors de l'emmener à Paris et de faire d'elle une grande chanteuse en l'introduisant dans la prestigieuse Académie royale de musique dont il est membre. Superbe, c'est une affaire qui marche. Et voilà, nous sommes au début des années 1690 et arrivons vers les derniers épisodes de sa vie turbulente et rocambolesque. Elle a la vingtaine et arrive à Paris, au bras de son beau baryton, qui arrive à lui obtenir une audition devant Monsieur de Francine, le directeur de l'Académie royale de musique, qui allait devenir l'Opéra de Paris. Séduit par sa voix profonde et chaude de mezzo-soprano et ses aptitudes à la danse et à la comédie, il décide de l'engager, bien qu'elle ne sache pas lire la moindre note de musique. Et Julie, qu'on appelle désormais Mademoiselle de Maupin ou la Maupin, se prépare à faire ses premiers pas sur la scène de l'opéra. Bien que Thévenard court les jupons, la Maupin ne s'en soucie guère si occupée à préparer sa première apparition sur les planches, où elle jouera le rôle de Pallas, coiffée d'un casque, revêtue d'une cuirasse et armée d'une lance, rôle pour lequel elle fit sensation et recevra les ovations du public. Mais sa nature profonde est toujours là. La Maupin est souvent en vadrouille, à courir filles et garçons, à chercher querelle. À ce sujet, on peut rapporter l'anecdote du ténor Louis Gaulard du Ménil, un de ses collègues de l'opéra. Convoitant les charmes de Julie, elle l'avait rembarré et du coup, il l'avait insulté. Mais ça n'allait certainement pas en rester là. Habillée de sa tenue de cavalier, elle l'attend un soir place des Victoires, à 2 pas de l'Académie royale de musique. Et sous son déguisement, Elle lui tombe dessus, mais terrorisé, le chanteur refuse de mettre la main à l'épée. Elle lui répond alors par une volée de coups de bâton, puis lui subtilise sa montre et sa tabatière avant de le laisser gisant sur le pavé. Quand, le lendemain, à l'opéra, Duménil explique d'où viennent ses bleus et ses bosses à une meute d'adorateurs inquiets, il raconte que trois brigands l'ont attaqué et lui ont dérobé ses effets personnels. Sur ces entrefaits, l'âme au pain se fraye un chemin jusqu'à lui et lui dit « Duménil, vous êtes un menteur et un vil poltron. C'est seul que je vous ai défait. Je vous ai donné une raclée retentissante comme preuve. Je vous rends votre montre et votre tabatière. » Toujours en quête d'aventure, elle tombe aussi à nouveau amoureuse de la soprano Marthe Le Rochois. Puis, après, elle s'éprend tout à coup de la soprano Fanchon Moreau, une chanteuse d'une beauté exceptionnelle. Malheureusement, Fanchon est déjà courtisée par les puissants du royaume et notamment par le grand dauphin Louis de France, le fils aîné de Louis XIV. Bien que terriblement affectée par ce revers, elle s'en remettra assez vite. En janvier 1692, pour un bal donné au Palais Royal par Monsieur Duc d'Orléans et frère du Roi Soleil, Julie, toujours en costume d'homme, fait danser grand nombre de jolies demoiselles. Cependant, l'une d'entre elles retient particulièrement son attention, la comtesse d'Argenton, dite Mademoiselle de Saisy. Mais il semblerait que notre cavalière ait fait du gringue un peu lourdement à la jolie Marie-Louise. Aussitôt, trois gentilshommes accourent pour défendre la demoiselle en détresse et invite le grossier personnage à sortir dehors pour en découdre. Julie accepte volontiers, et vous pouvez imaginer la suite. Trois coups de rapière, et elle les laisse, tous les trois, sanguignolants, dans l'herbe. Il est évident que cette affaire fit grand bruit, et l'on raconte que la Maupin fut sauvée de la condamnation par le duc d'Orléans lui-même. Ce dernier l'avait prise pour un frétillant jeune homme. Mais apprenant qu'il s'agissait en réalité d'une femme, il aurait intercédé auprès de son frère qui, amusé par cette affaire, aurait finalement déclaré que la loi sur les duels ne s'appliquait pas aux dames. La Maupin échappe encore une fois aux réprimandes, mais on lui suggère malgré tout de prendre le large quelque temps et de se faire oublier. Du coup, elle part à Bruxelles et tombe amoureuse de l'électeur de Bavière, un grand amateur de festivités et d'opéra. La toccade est réciproque et les deux amants commencent une idylle romantique. Malheureusement, Maximilien Emmanuel de Bavière est assez volage, et la Maupin se fait précipitamment remplacer par la comtesse d'Arcos. Elle reçoit de son amant la cordiale invitation de quitter la ville, accompagnée tout de même d'une bourse de 40 000 livres. La Maupin, furieuse, aurait renvoyé la bourse au visage du messager, puis, n'ayant d'autre choix que d'obtempérer, aurait fini par rentrer à Paris. Nous sommes en 1693, quand Julie, la Maupin, fait son grand retour à l'opéra. Ses extravagances et excentricités ayant retenti dans le tout Paris de l'époque, participent à son immense succès et à sa renommée auprès du public. Malgré ses multiples querelles, dont nombreuses autres que je ne vous ai pas citées, il semble que cela n'entacha en rien sa réputation, et la cantatrice enchaîna les représentations, endossant souvent les premiers rôles. En 1703, une grande histoire d'amour naît entre elle et la marquise de Florensac, la plus belle femme qui fut peut-être en France, selon Saint-Simon. Une histoire qui dura 2 ans, et s'acheva brutalement par la mort tragique de la marquise, à 35 ans, des suites d'une terrible fièvre. Profondément meurtrie par la disparition de son amie, la Maupin se retire de l'opéra en 1705 et décède 2 années plus tard, en 1707, oubliée de tous, à l'âge de 37 ans. C'est un résumé évidemment incomplet de la vie de Julie d'Aubigny, dite la Maupin, que je viens de vous raconter. Une vie assez courte, mais si riche et farfelue temps, dans ses choix vestimentaires, sa vie de vagabonde et de duel, ou encore ses amours en dehors de la morale dominante. Récit fait en me référant d'ailleurs à une excellente émission entendue l'an dernier sur les ondes de Radio France, ainsi qu'au blog Savoir d'Histoire de Priscille Lamure. Voilà le genre de femme que l'on souhaite rencontrer, belle et dotée de nombreux talents en même temps, genre de meuf avec qui on ne souhaiterait pas s'embrouiller dans un recoin de la cité. Vous allez me dire sans doute, quel drôle de bonne femme. Et c'est bizarre pour cette époque de se travestir. Aujourd'hui encore, on pourrait comprendre une femme habillée comme un homme. D'ailleurs, elle porte presque toutes des pantalons, des jeans, c'est fini les robes. Eh bien, tout a une explication. Et le second exemple dont je vais vous parler répondra partiellement à votre interrogation. Car en évoquant la vie de Jeanne Barret, pionnière de la biodiversité, exploratrice et botaniste, notamment connue pour être la première femme à avoir fait le tour du monde, vous comprendrez mieux pourquoi, de tout temps, on a rencontré des femmes habillées en hommes. Si je m'étais contenté de reprendre les sites internet parlant de cette femme exceptionnelle, j'aurais commencé son histoire comme ça. Le 27 juillet 1740, dans le village de la Comelle, en Bourgogne, Jeanne Pochard et Jean Barret, paysans, eurent une fille à qui ils donnèrent le même prénom que sa maman, Jeanne. Son acte de baptême identifie son père comme manouvrier et, semble-t-il, analphabète puisque n'ayant pas signé le registre paroissial. Mais parmi les dizaines de sites que j'ai parcourus, un me posa une question d'honnêteté par rapport à vous, auditeurs. Il semblerait qu'aucune certitude ne viendrait étayer le début de cette histoire. J'ai donc fait appel à un ami généalogiste qui me confirma le peu de fiabilité qu'offraient les registres de cette époque et qu'en ce qui concerne Jeanne Barret, on ne pouvait pas du tout garantir qu'elle était née ce jour-là. Des Jeanne Barret, il y en a beaucoup, m'a-t-il dit, et on en retrouve une, justement, aux archives départementales de la Nièvre, pour la commune de Poil, qui est la commune voisine de Comelle, où une Jeanne Barret aurait été inhumée le 25 avril 1743, à l'âge de 2 ans et 6 mois. C'est donc sur ces incertitudes que je refermerai le chapitre traitant de l'enfance de Jeanne Barret, pour laquelle nous n'avons pas beaucoup d'informations. Et la suite de son histoire étant si passionnante et riche en aventures et péripéties, que rien nous manquera en la découvrant qu'à partir de 1764, et qu'il aurait été inutile de vouloir romancer et d'y introduire des informations inexactes. C'est donc en 1764, en entrant au service de Philibert Commerson, qui était médecin, explorateur et naturaliste français, que sa chance tourna. Philibert Commerson était veuf depuis peu et père d'un jeune enfant. Jeanne s'occupa de l'intendance de la maison et assista le scientifique dans ses travaux de classement. Commerson lui apprit probablement à lire et à écrire afin qu'elle puisse consigner et répertorier les végétaux qu'il étudiait. Jérôme de Lalande, un jeune astronome, originaire de la Bresse lui aussi, qui mène une brillante carrière à Paris, arrive à convaincre Commerson de le rejoindre. En août 1764, Commerson s'installe donc dans un appartement du 13 de la rue des Boulangers, tout près du Jardin du Roi, le futur Jardin des Plantes. Au courant de cette même année, Jeanne Barret vint probablement à Paris, à peu près dans la même période que Commerson, pour y être toujours gouvernante. L'année suivante, Philippe Commerson est invité à se joindre à l'expédition de l'explorateur Louis-Antoine de Bougainville. Expédition devant les amener autour du monde, à bord de la frégate La Boudeuse et du navire L'Étoile. Philibert Commerson, étant en mauvaise santé, hésite un peu et finit par accepter sous condition. Il souhaite la présence de Jeanne Barret en tant qu'assistante dans son activité de botaniste et de surcroît en tant qu'infirmière. 15 novembre 1766, la Boudeuse, une frégate de 12 canons, quitte le port de Nantes sous le commandement du navigateur et explorateur français Louis-Antoine de Bougainville, en direction de Rio de Janeiro. Et ce n'est qu'en février 1767 qu'une flûte, c'est-à-dire une embarcation de trois mâts, un bateau ravitailleur, nommé l'Étoile, quitte le port de Rochefort avec à son bord l'aventurier Charles Nassau-Siegen, le cartographe Charles Routier de Romainville, l'astronome Pierre-Antoine Véron et le naturaliste Philippe Commerson. Passionné de plantes, accompagné de son valet, Jean Barret. Pourquoi Jean Barret ? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que par ordonnance du 15 avril 1689, il est interdit aux femmes de monter à bord des navires de la Royale. Pour contourner ce règlement, l'apprenti botaniste, Jeanne Barret, dissimulé sous des vêtements masculins, se fait donc passer pour un homme et réussit à embarquer pour continuer ainsi de veiller au bien-être du scientifique peu vaillant. Commerçant, emportant avec lui un matériel encombrant destiné à prélever, étudier et conserver les espèces découvertes au fil des escales, le capitaine du bateau, François Chénard de la Giraudet, lui cède sa propre cabine. Cabine plus spacieuse, offrant au botaniste et à son assistant, un certain Jean Barret, une chance inouïe. Ils ont ainsi accès à des toilettes privées, ce qui leur permettra d'entretenir l'illusion. Jeanne porte les cheveux courts, bande sa poitrine et fait profil bas. En raison d'un retard d'un mois dans la préparation de l'étoile et d'une voie d'eau qu'il fallut réparer au cours de son voyage, la jonction des deux navires se fait le 20 juin 1767 à Rio de Janeiro, au Brésil, au lieu des Malouines initialement prévues. Dès leur arrivée au Brésil, Commerçon, souffrant d'ulcères à la jambe, c'est principalement Jeanne qui va se charger de la collecte à terre des spécimens. Il descendra malgré tout quelquefois à terre, à bord d'une petite pirogue pour découvrir cette nature exubérante et luxuriante qu'il s'empressera de décrire. Ils tomberont en arrêt devant une liane flamboyante, une plante admirable, aux larges fleurs d'un violet somptueux. Elle sera baptisée Bougainvillea, en l'honneur du capitaine de l'expédition Bougainville. On connaît aujourd'hui sous le nom de Bougainvillier cette plante. Après une escale d'un mois à Rio de Janeiro, les deux navires feront voile vers l'estuaire du Rio de la Plata entre Montevideo et Buenos Aires, où ils resteront 4 mois. Bougainville attendit les accalmies de l'été austral pour franchir le détroit de Magellan en décembre 1767 et janvier 1768. L'étoile qui prend l'eau et la boudeuse qui se révèle peu manœuvrante oblige à faire de nombreux arrêts que les deux naturalistes mettent à profit pour se livrer à un inventaire de la flore et de la faune de la Terre de Feu, à l'extrême sud du continent sud-américain. Plus tard, dans le récit de son voyage, Bougainville fera l'éloge de l'infatigable Barret. Je le cite. « Botaniste déjà fort exercé, que nous avions vu suivre son maître dans toutes ses herborisations, au milieu des neiges et sur les monts glacés du détroit de Magellan, et qui portait même, dans ses marches pénibles, les provisions de bouche, les armes et les cahiers de plantes, avec un courage et une force, qui lui avait mérité du naturaliste Commerçon le surnom de sa bête de somme. Après avoir essuyé les bourrasques de vent glacial, de pluie et de neige du détroit de Magellan, les navigateurs abordent l'océan Pacifique, où ils rencontrent l'île de Tahiti, où ils y feront escale. Durant ce bref séjour de 9 jours, Commerçon n'eut guère le temps d'herboriser et quand il s'y essaya, la prospection tourna court, comme le raconte Bougainville. Je le cite. Monsieur de Commerçon y descendit à Tahiti pour herboriser. À peine Barret, qui le suivait avec les cahiers sous le bras, eut mis le pied à terre, que les Tahitiens l'entourent, crient que c'est une femme et veulent lui faire les honneurs de l'île. Le chevalier de Bounard, qui était de garde à terre, fut obligé de venir à son secours et de l'escorter jusqu'au bateau. Toutefois, Dans son journal, Bougainville avait daté bien plus tard, le 28 mai 1767, au large de Vanuatu, la découverte du travestissement de Jeanne, tout en laissant entendre l'existence d'une rumeur bien antérieure. Les soins particuliers qu'elle portait à son maître attiraient déjà quelques soupçons et quelques murmures dans l'équipage, laissaient à penser qu'il y avait à bord une femme déguisée en homme. Après l'épisode mémorable de Tahiti, les deux navires font voile vers Samoa, baptisé Petite Cyclade par Bougainville, puis Vanuatu, nommé Grande Cyclade, et approche la barrière de corail de l'Australie. Après la traversée de l'océan Indien et deux années de navigation accompagnées de pas mal de déboires, l'expédition arrive sur l'île de France, aujourd'hui l'île Maurice. On est le 8 novembre 1768. Rappelons que depuis qu'elle a été démasquée, Jean est redevenu Jeanne. Bougainville repartira un mois plus tard pour la métropole, mais laissera Commerson assez fatigué et sa fidèle compagne Jeanne Barré sur l'île de France, qui devint, rappelons-le, l'île Maurice en 1810. 4 ans et demi après, le 13 mars 1773, s'éteindra Philibert Commerson, qui acheva donc son voyage sur l'île Maurice et ne lui laissera pas le temps de publier ses travaux. Seul et sans ressources, Jeanne ouvrira un cabaret à Port-Louis et se mariera le 17 mai 1774 avec un soldat de la marine, Jean Dubernat, ce qui lui permettra de rentrer en France en 1776. L'héritage botanique de Jeanne Barré et de Philibert Commerson comporte près de 6000 espèces, dont 3000 inédites, qui rentrèrent dans les collections botaniques et zoologiques françaises, dont certaines sont toujours visibles dans l'herbier national français au Muséum de Paris. À la demande de Bougainville, le roi Louis XVI la nommera femme extraordinaire. En reconnaissance de son travail et de son courage, il lui accordera une pension. Jeanne Barré meurt en 1803, âgée de 63 ans, 30 ans après Commerson, prospère et entourée des siens. Une phrase écrite par Charles-Henri de Nassau-Siegen à son propos aurait pu constituer la parfaite épitaphe. L'aventure, je crois, peut avoir sa place dans l'histoire des filles célèbres. Plusieurs journaux de bord, celui de Bougainville, de Commerson, du chirurgien du bateau ou du prince de Nassau-Siegen, aventurier et passager payant, relate l'histoire de Jeanne autour du monde. Autant de témoignages précieux qui permettent de prendre la mesure de l'exploit qu'elle a réalisé. La quatrième femme dont j'aimerais vous raconter le parcours était aussi habillée comme un homme. À vrai dire, ce n'était pas le critère pour être retenu dans cette émission, mais phénomène de pur hasard. Cette femme, au parcours surprenant, et héroïque, me donna envie de m'arrêter sur son destin et de vous le raconter. Longtemps connu sous le nom de Pedro Herrera, ayant un excellent sens du commandement, combattant aux côtés de Pancho Villa, et renvoyé de l'armée quand elle se décida de révéler qu'elle était une femme. Petra Herrera est une révolutionnaire mexicaine, una soldadera, née en 1887. Porfirio Díaz, homme d'État et militaire mexicain, dirige le Mexique depuis 1876. Soutenu par les États-Unis, c'est le règne de l'arbitraire et de la violence. Violence contre les syndicats, violence contre les paysans, exploités. La présidence de Porfirio Díaz est marquée du sceau de la dictature, du racisme, de la corruption. Des lois de réforme, et en particulier la Ley Lerdo, favorise la concentration des terres aux mains d'une minorité d'investisseurs et de propriétaires terriens. 95% des paysans paysannes ne possèdent alors aucune terre. Les paysans, subissant ce processus de dépossession de la terre par le trésor capitaliste, se voient déportés massivement vers le travail forcé. Les journaux loyalistes reçoivent des financements de l'État et des journalistes d'opposition sont incarcérés. Les gens meurent de malnutrition chronique, une condition qui conduit à la montée d'autres maladies telles que le paludisme, la tuberculose, la typhoïde, la pneumonie, le choléra. Voilà en quelques mots le tableau brossé de la situation au Mexique à la fin du XIXe siècle. Quant aux femmes, elles n'ont ni droit civil ni droit politique et subissent en plus l'oppression patriarcale avec l'assentiment de la toute-puissante Église catholique. Il est facile d'imaginer qu'en tant que pauvre paysanne d'origine indigène et en tant que femme désireuse de s'émanciper, Petra Herrera a de bonnes raisons de se révolter. Alors des grèves et des manifestations éclatent. Des voix s'élèvent dans toutes les classes de la société pour s'opposer à Diaz, mais les premières révoltes sont réprimandées dans la violence. Mais la révolution prend malgré tout de l'ampleur en 1911, sous le commandement d'insurgés tels que Emiliano Zapata ou Pancho Villa. Et Petra Herrera a une folle envie de se rallier à la révolution qui commence et d'inventer son propre destin. Pour pouvoir rejoindre les troupes du général Pancho Villa, qui, pour être révolutionnaire, n'en admettait pas pour autant les femmes dans son armée, si ce n'est cantonné à des activités non combattantes, hein, le ravitaillement, la cuisine, la prise en charge des malades et toutes les autres tâches subalternes. Petra Herrera se fait couper les cheveux, s'habille en homme, se bande les seins, prend une voix grave et se fait appeler Pedro. Très vite, Pedro se révèle particulièrement apte au commandement, devient un redoutable tireur à la carabine, expert en explosifs. Il n'a pas son égal pour faire sauter les ponts. Pour mieux donner le change, Petra, alias Pedro, à l'aube, fait semblant de se raser devant ses 200 hommes pour soigneusement dissimuler son identité de femme. Mais, fatigué par ses stratagèmes de divertissement, Pedro décide de devenir Petra, de redevenir Petra. Elle laisse repousser ses cheveux et affirme « Je suis une femme et je vais continuer à servir comme soldate ». L'armée révolutionnaire qui reconnaît les services qu'elle a rendus et qui loue ses capacités de commandement refuse pourtant de lui accorder un rang militaire. Qu'à cela ne tienne, Petra constitue un bataillon de femmes soldates, 400 soldaderas, avec lesquelles elle prend la ville de Torreón le 30 mai 1914, prise d'une grande importance stratégique où Petra monte à l'assaut à la tête de 400 femmes soldates. Cosme Mendoza Chavira, compagnon de Pancho Villa, en dira « C'est elle qui prit Torreón et qui éteignit la lumière en entrant dans la ville. » Mais Pancho Villa n'en reconnaît pas plus les mérites. Cet épisode fameux est même immortalisé dans un corrido, un chant révolutionnaire, qui exalte son courage et sa beauté. Le fait que son nom soit mentionné dans ce chant indique le niveau d'éloge qu'elle a reçu, en particulier de la part d'un compositeur masculin. Malgré tout cela, Pancho Villa ne reconnaît pas les mérites de son action. On ne la retrouvera pas plus dans aucun livre d'histoire d'ailleurs. L'histoire, écrite par des hommes, se doit donc de banaliser les exploits des soldaderas et de romantiser leur engagement pour effacer la menace qu'elles représentent pour le machisme dominant. Il est fort possible que ce manque de reconnaissance et le fait de ne pas être promu à quelque grade que ce soit aient motivé Herrera à former une brigade indépendante de femmes soldats. En réaction à ce dédain, Petra crée alors un bataillon révolutionnaire non mixte de 300 à 400 insurgentes, voire un millier à son apogée. Pour qu'aucune de ces femmes ne se fasse harceler la nuit, leur campement est interdit aux hommes et les sentinelles ont ordre de tirer sur tout intrus. Pancho Villa, je suis navré d'abîmer son idéalisation et sa légende, mais Pancho Villa se montra constamment dédaigneux, haineux, voire violent envers les soldaderas. Un autre leader de la révolution, Albarón Obregón, n'hésita pas à se servir de certaines d'entre elles et de leurs enfants comme bouclier humain. En 1917, Petra Herrera s'allie à Venustiano Carranza. Ce général instituera un fonds de pension pour les veuves de ses soldats. Élu président de la République en 1915, les réformes sociales qu'il insuffle font avancer les droits des femmes. Grâce à lui, Petra Herrera, à défaut d'être nommé général, est promu au grade de colonel. La paix revenue, on perd la trace de Petra. Elle aurait travaillé comme espionne et serveuse dans un bar de Jiménez, où elle aurait été assassinée par des contre-révolutionnaires. Selon une légende, elle aurait formé une brigade de 25 000 femmes et vécu dans un campement où aucun homme ne pouvait entrer. Mais d'autres soldaderas combattantes de la même époque sont aussi passées à la postérité. Je peux vous citer Petra Ruiz, qui se fit également appeler Pedro. Elle avait un mauvais caractère et était douée pour jouer du couteau. Pendant les guerres, le corps des femmes est devenu un butin, un crime courant chez les combattants. La violence sexuelle contre les femmes pendant la Révolution mexicaine n'a pas fait exception. Petra Ruiz a été violée et c'est après cela qu'elle s'est fait passer pour un homme pour s'enrôler dans les rangs révolutionnaires. L'habileté de Petra Ruiz avec un couteau, un pistolet et un fusil lui a valu le surnom de Echabalas, avec lequel elle a été reconnue pendant tous ses combats. Pedro accéda assez rapidement au grade de lieutenant et s'évertua à mettre tout en œuvre pour éviter que des femmes soient violées par ses propres soldats. Elle déclara « J'ai rejoint l'armée constitutionnaliste pour survivre, mais surtout pour éviter autant que possible le viol de plus de femmes, comme celui que j'ai subi. » Et ce n'est que vers la fin de la guerre, lors de sa démobilisation et face au nouveau président fraîchement élu, qu'elle déclara encore « Je veux d'abord que vous sachiez qu'une femme vous a servi comme soldat. » Les personnes rassemblées ont été stupéfaites de l'apprendre. Rosa Bobadilla, qui a refusé d'être un homme et a combattu en son propre nom. Elle a pris les armes après l'assassinat de son mari, qui venait d'être nommé colonel par Emiliano Zapata lui-même. Zapata, connaissant déjà cette grande femme et son dévouement au combat, lui donna la position que son mari avait. Elle accepta d'être en charge de 200 paysans révolutionnaires. Rosa Bobadilla, un ou une colonel zapatiste, a été une des figures éminentes dans plus de 168 batailles. Survivant à toutes, elle mourut à l'âge de 83 ans. Une jeune fille aussi de 13 ans nommée Elisa Greensen, qui, lorsque le président américain Wilson a envoyé une armée au Mexique, a rallié les femmes de Parral pour les expulser. Que dire aussi d'Angela Jiménez, qui en 1911 a vu rentrer des soldats fédéraux pour fouiller sa maison à la recherche de rebelles et ont tenté de violer sa sœur qui, avec un pistolet, a d'abord tué les soldats puis s'est suicidée. Après avoir été témoin de cela, Angela Jiménez a juré de tuer ses fédéraux, s'est habillée en homme, s'est fait appeler Angel et a rejoint la Révolution mexicaine avec son père et a atteint le poste de lieutenant, même si ses collègues savaient qu'elle était une femme. Blessée par balle, elle quitte l'armée et émigre au Texas, puis en Californie, où elle est l'une des fondatrices de l'organisation Veteran of Revolution en Californie. Elle fut également une défenseure des droits des Chicanos aux États-Unis. Juana Belém Gutiérrez a dirigé une armée composée de veuves et d'orphelins. Margarita Neri, une femme maya originaire de Quintana Roo, a maintenu une troupe de 700 indigènes qui ont vaincu les fédéraux dans l'un des multiples combats qu'elle a dirigés. Amelia Robles Avila, qui a dû devenir Amelio, pour atteindre le grade de colonel. Dans un processus graduel, Amelia a commencé à devenir Amelio jusqu'à ce qu'après une attaque, elle change définitivement d'identité. Amelio a été reconnu par l'armée et a reçu la médaille du mérite révolutionnaire. Son dossier a également maintenu, de manière transparente, son identité masculine. Quelque temps plus tard, Amelio épousa Angela Torres, et eut une fille adoptive. Amelio n'était pas seulement un soldat exemplaire, il a également été considéré comme la première personne dont le changement de sexe a été reconnu au Mexique. Rosa Padilla Camacho a rejoint les rangs zapatistes en 1912 à l'âge de 20 ans. C'était l'époque du début de la révolution mexicaine. Les soldats et les commandants militaires fidèles à Victoriano Huerta, général de Portofiro Diaz, ne soupçonnaient pas que Rosa Padilla Camacho, la femme qui dirigeait une auberge en centre-ville de Mexico, avait des talents d'espionne et travaillait pour l'ESL, une organisation militaire dirigée par Emiliano Zapata. Elle devint elle aussi colonel. Et Maria Quinteras de Mera, dont ses combats étaient si féroces qu'on pensait qu'elle avait des pouvoirs surnaturels. Sans oublier toutes les combattantes sans commandement de troupes qui ont fait un travail d'espion, de messager clandestin, tâche demandant de l'audace, de la force et du courage, ainsi que toutes les femmes qui ont rejoint la lutte révolutionnaire en tant qu'écrivain, dans le travail journalistique, dans les brigades de presse. Noms qui surgissent de l'histoire grâce à quelques historiennes et historiens tentant de les faire reconnaître. Car l'histoire se souvient des dirigeants révolutionnaires, Zapata, Huila et d'autres. Mais les femmes qui vivaient et combattaient en silence sont tombées dans l'oubli. Si le temps me le permettait, je vous raconterais bien volontiers leurs exploits. Puis, toutes les batailles, à cette même époque, n'étaient pas que militaires. Jeanne Chauvin mena à elle une bataille juridique en France pour permettre aux femmes de prêter serment. Jeanne Chauvin est née en 1862. Elle était fille de notaire, orpheline de père à 16 ans et obtint 2 baccalauréats en lettres et en sciences et 2 licences en philosophie et en droit en 1890, devenant ainsi la deuxième femme de France titulaire d'un diplôme dans le domaine juridique. Docteur en droit 2 ans plus tard, elle devint la première femme de France à réussir cet examen. Jeanne Chauvin consacra d'ailleurs son doctorat aux professions accessibles aux femmes et aux inégalités juridiques existantes. Dès 1897, Jeanne Chauvin se présente à la cour d'appel de Paris pour prêter serment en tant qu'avocate. Mais cela lui est rapidement refusé car la loi n'autorise pas les femmes à exercer la profession d'avocat, exclusivement masculine. Il lui a fallu attendre 3 ans pour qu'à la suite des pressions féministes, les députés Raymond Poincaré et René Viviani fassent voter par la Chambre le 30 juin 1899 et par le Sénat le 13 novembre 1900 une loi permettant enfin aux femmes d'accéder pleinement au barreau avec accès à la plaidoirie. Et c'est ainsi que Jeanne Chauvin prêtera serment comme avocate au barreau de Paris. Jeanne Chauvin devint ainsi, en 1907, la deuxième femme à prêter serment, après Olga Petit, mais la première avocate de France à plaider. Si Jeanne Chauvin plaida peu, c'est qu'elle consacra le reste de sa vie à se battre pour l'émancipation des femmes, en particulier dans le domaine juridique. Une autre femme, jeune femme, dont j'aurais aimé vous parler si le temps ne m'était compté, c'est Rosa Parks. Alors nous sommes ni à la même époque, ni dans le même contexte, dans un autre pays, et sa bravoure et son histoire n'ont rien à voir avec celle de la Maupin ou de Jeanne Barré. Qui plus est, beaucoup connaissent déjà son histoire qui fut l'objet de romans, de BD, de séries télé et de reportages. Des dizaines d'artistes ont composé des chansons en l'honneur de Rosa Parks. Mais pour les plus jeunes qui m'écoutent et qui n'auraient pas eu l'opportunité d'en entendre parler, voici 2 mots pour s'étonner du courage de cette femme. Certes, moins connue que le pasteur Martin Luther King ou que Malcolm X ou que Mandela, mais pourtant pionnière dans ce combat contre la ségrégation. Quand je dis pionnière, j'exagère un peu. Figure de proue serait plus juste, car juste avant elle, on pourrait citer Claudette Colvin, âgée de 15 ans, ou bien encore Mary-Louise Smith, 18 ans, qui ont aussi, en 1955, violer les lois ségrégationnistes de la ville de Montgomery en Alabama en refusant de céder leur place à un blanc dans le bus qui les conduisait à l'école. Rosa Parks une des figures majeures dans la lutte contre la ségrégation raciale, Rosa Parks est considérée comme la mère du mouvement des droits civiques. Puis si le temps me le permettait, je pourrais vous parler d'Eddie Lamar. Alors si son nom ne vous dit rien, ou pas grand-chose, sachez qu'elle fut actrice, magnifique, productrice de cinéma et inventrice autrichienne, naturalisée et américaine, née le 9 novembre 1914, et dont le nom figure sur les étoiles de la promenade des célébrités d'Hollywood, ce fameux trottoir de Walk of Fame, du quartier d'Hollywood à Los Angeles. Ayant tourné plus de 30 films entre 1930 et 1958 aux côtés des plus grands, mais plus que ça, elle fut aussi une femme de science. De tout temps, elles sont nombreuses à avoir œuvré pour la science, mais leur travail n'a été que trop rarement reconnu de leur vivant ou même à titre posthume. Eddie Lamar a dû attendre 59 ans avant que son invention, un système de codage des transmissions par étalement de spectres, ne soit reconnu. Un système basé sur un émetteur-récepteur permettant à la torpille de changer de fréquence de transmission pour ne pas être détectée par les ennemis. Ce principe de transmission régit toujours nos technologies modernes sans fil comme le GPS. Elle est, pourrait-on dire, l'ancêtre des technologies modernes que nous utilisons tous aujourd'hui, comme le Wi-Fi, la téléphonie mobile ou le Bluetooth. Voici le portrait que j'aurais pu vous dépeindre de cette femme aussi brillante que belle et pourtant assez mal connue. Et c'est un euphémisme car je pourrais dire peu connue ou pas connue. Ou bien encore, Mark Kingsley, une aventurière en robe noire, britannique, née le 13 octobre 1862 à Londres. Perdant ses deux parents la même année, en 1892, elle décide de prendre des vacances et commence à s'investir pleinement dans les domaines auxquels elle s'est depuis longtemps intéressée, notamment l'Afrique, sa population et ses richesses. Elle a 30 ans, est toujours restée chez ses parents, où elle jouait le rôle de garde-malade, et décide d'embarquer pour l'actuel Gabon en 1893, sans la moindre expérience. De retour en Angleterre, elle dénoncera une politique coloniale qui repose sur les bonnes intentions, l'ignorance et les fusils, et refusera de voir les indigènes comme des sauvages, et consacra ce qui lui restait de vie à défendre les tribus noires contre les erreurs de l'administration anglaise. Elle dénoncera ces bâtisseurs d'empire qui pillent l'Afrique au nom de Dieu, de la reine et de la livre sterling. Mac Kingsley mourra lors d'un dernier voyage en Afrique du Sud à 37 ans dans un hôpital de misère. C'est vrai qu'à croire nos manuels scolaires aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, où les grandes découvertes, l'art, la philosophie, les mathématiques, seraient des domaines réservés aux garçons et laissent à penser que plus de 90% des citoyens et citoyennes seraient des hommes. Par bonheur, beaucoup d'individus, prenant conscience de cette imposture historique, prennent de leur temps, au travers de différents médias, la littérature, les films, les documentaires ou les émissions de radio, pour corriger cette tromperie organisée depuis trop longtemps.
C'était une émission préparée, présentée et réalisée par Gilles Begg.
Voilà comment, à travers la vie de ces quelques femmes, j'avais envie, non pas de rétablir quelques vérités, mais tout simplement de partager des récits permettant de découvrir, pour certains, de comprendre pour d'autres, que les femmes sont avant tout des individus à part entière. Cela peut paraître saugrenu, pas tant que ça, au regard des inégalités hommes-femmes toujours si grandes. Comme pour chaque émission, je vous invite à vous rendre sur le site orinoco-podcast.com pour consulter l'article et les illustrations qui accompagnent ce programme, le réécouter si vous le désirez, le partager, le commenter ou le critiquer, puis voir et découvrir l'ensemble des thèmes musicaux qui nous accompagnèrent tout au long de cette heure passée ensemble. Musique que nous devons exclusivement aux compositions de Mel Bonis, je tenais à le rappeler. En attendant la rentrée pour une nouvelle saison, je vous souhaite de bonnes vacances, à l'écoute de vos radios préférées ainsi que du podcast Orinoco, à consommer sans modération. Bonnes vacances. Ciao.